Alors, après une petite mise en route, mise en jambe méthodologique, pour ne pas tout mélanger, puisque nous allons parler de sciences, de problèmes philosophiques, mais aussi de problèmes théologiques, donc il fallait s'y retrouver. Et je vous rappelle que j'avais suggéré une approche qui doit être en cohérence avec une théologie de la création, et cette approche, la seule probablement compatible qui évite le concordisme et le discordisme, est une modalité de l'articulation où, partant des données scientifiques et les considérant dans toute leur vérité, car de fait, il n'y a pas de raison d'exclure une donnée scientifique, une vérité scientifique qui est dûment établie, suivant les standards scientifiques et dans le respect des règles éthiques. Donc toute vérité scientifique dûment établie doit être accueillie pour ce qu'elle est. Et partant de cela, nous allons essayer de voir quelle est l'image de l'homme, comment se place l'homme dans ce panorama de la science contemporaine, dégager un certain nombre de questions pour éventuellement rejoindre, via une sorte de clarification philosophique, des questions de type théologie. Bon. Alors, je veux résoudre finalement cette petite question, vous voyez, qui est celle de la vie et l'homme, sont-ils des épiphénomènes dans un univers finalement trop grand pour eux? La vie est-elle apparue par hasard dans un univers absurde d'une certaine manière? Ce que je voudrais faire, c'est commencer justement par la description de l'univers, puisque le phénomène de la vie et de l'homme sont plongés dans un univers que, d'une certaine manière, la science ne connaît bien vraiment, pourrait-on dire, que depuis le début du XXe siècle. Parce que si l'astronomie a une longue histoire, évidemment, hein, depuis certainement les Grecs et même avant les Grecs, il y a l'astronomie babylonienne, égyptienne, etc., c'est clair que l'univers en totalité ne faisait pas partie de la science avant 1917. Je veux dire que ce que l'on considérait, c'était des systèmes dans l'univers. On étudiait des systèmes physiques, biologiques, géologiques, etc., à l'intérieur de l'univers. Mais l'univers en totalité n'était pas objet de science, puisque dans le fond, on estimait qu'on ne peut pas sortir de l'univers pour faire des mesures sur l'univers. L'univers en totalité est quelque chose qui se dérobe à l'appréhension intellectuelle, rationnelle. Kant, grand philosophe allemand, avait dans la critique de la raison pure, critique des reine Vernunft, avait dans, au milieu de la critique, décrit ce qu'il appelait des antinomies, c'est-à-dire dans le fond, des paradoxes qui apparaissent quand on essaye de poser des problèmes à propos de la cosmologie, à propos du monde, etc., et que, d'une certaine manière, on perd le contact avec le phénomène. L'univers en totalité, disait Kant, ne nous est pas accessible, parce que, dans le fond, l'univers en totalité, c'est une totalité qui englobe toutes les totalités, et ça, dans le fond, ça nous échappe complètement. Ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas dans l'espace et dans le temps, nous ne pouvons pas agir sur lui. Donc, depuis Kant, on considérait que les problèmes de la cosmologie étaient des problèmes qui n'avaient pas de prise rationnelle. C'était peut-être, ou n'avaient en tout cas pas de prise pour la science empirique. Et ce n'est que depuis la relativité d'Einstein que l'univers en totalité est devenu objet de science. Alors, comment se fait-il que l'univers en totalité est devenu un objet de science? Eh bien, Einstein a montré que l'on peut décrire l'univers tout en restant dedans. L'idée qu'il faille sortir de l'univers pour décrire l'univers comme un peu de l'extérieur ne s'impose pas. Nous pouvons connaître des choses sur l'univers tout en restant dedans, un peu comme une araignée ou une fourmi pourrait savoir des choses sur ce verre. Même si la fourmi qui est sur ce verre ne peut pas sortir du verre, elle pourrait dire des choses sur la structure du verre en se déplaçant. Et par exemple, si elle se déplace comme ceci, elle pourrait dire « je suis sur une structure qui ne s'étend pas à l'infini, je suis sur une structure qui a une certaine courbure ». et qui est comme un cylindre. Donc en fait, je peux très bien, avec des méthodes géométriques, et qui s'étaient développées avant Einstein, avec Gauss et avec Riemann, décrire des structures géométriques, non pas en sortant, mais en restant dessus. Bon. Et Einstein a dit la chose suivante, mais l'univers est peut-être une structure géométrique, peut-être un peu analogue à une surface. Et ce que propose Einstein, c'est de décrire l'univers un peu comme une surface dont les dimensions seraient l'espace et le temps. Donc l'espace-temps, l'univers est un espace-temps, l'univers est comme une surface, si vous voulez, qui peut évidemment présenter des propriétés d'être un cylindre, ou bien d'être un cône, ou bien d'être un plan, hein, et on peut étudier l'univers par les méthodes de la géométrie qui étudie ce genre de surface, courbe, etc. Et l'idée d'Einstein est une idée assez géniale, c'est de dire, je vais essayer de décrire la gravitation avec cette image-là. Comment ? Mais qu'est-ce que c'est la gravitation ? Depuis Newton, on a appris à décrire ce qu'était la gravitation. En gros, la gravitation, c'est le phénomène qui fait que dès que j'ai des masses, ces masses s'attirent. Dès que j'ai de la matière massive, eh bien, les masses ont tendance à se rapprocher. Ou si je lance un objet au voisinage d'une étoile, d'une planète, cet objet va non pas continuer en ligne droite, mais avoir tendance à courber sa trajectoire et être dévié par les corps massifs. Donc la gravitation, finalement, la gravitation, c'est la modification des trajectoires liée à la présence de masse. Alors l'idée d'Einstein a été de dire ceci. Autrefois, c'est-à-dire du temps de Newton, on décrivait le phénomène en disant, si un astre, une comète, passe tout près de la Terre ou du Soleil, sa trajectoire s'incurve parce qu'il y a une force qui tire dessus. La force gravitationnelle. L'idée d'Einstein, ça a été de dire, eh bien, éliminons complètement la notion de force. Dans la gravitation d'Einstein, il n'y a plus de force. Il y a l'idée que les trajectoires s'incurvent au voisinage des corps massifs, non pas parce qu'il y a des forces qui tirent sur les corps, mais parce qu'au voisinage des corps massifs, la structure de l'univers s'incurve. Alors, sur un plan, on peut avoir des droites. Voyez ? Alors, la droite, c'est la figure géométrique qui décrit les phénomènes qui ne sont pas perturbés. Si je lance une bille sur une patinoire parfaitement lisse, la bille va en ligne droite. Il n'y a ni raison qu'elle aille à gauche, à droite, sa trajectoire n'est pas perturbée. C'est le signe que dans le fond, il n'y a pas d'autre phénomène et la bille va en ligne droite. Maintenant, si vous voyez une comète qui tourne subitement, vous allez vous dire, mais il y a quelque part une masse qui tire sur la comète. Il y a une force qui agit. Mais Einstein dit, oublions les forces et décrivons l'espace et le temps comme une sorte de feuille, de tapis, si vous voulez. Si le tapis est parfaitement plat, les corps vont en ligne droite, et ça veut dire qu'il n'y a aucun phénomène qui agit sur eux. Mais imaginons que la feuille soit incurvée. Ça veut dire que toutes les trajectoires qui sont sur la feuille, toutes les courbes que vous allez dessiner, seront non plus des droites, mais des lignes qui vont présenter des courbures. Et Einstein dit, eh bien, la courbure de l'espace, la modification de la géométrie au voisinage des corps massifs, c'est la gravitation. Vous voyez ? L'effet de la gravitation, c'est un effet de courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire à la fois il y a une modification de la géométrie et une modification de l'écoulement du temps. Vous voyez ? Bon, l'idée d'Einstein est donc de dire, décrivons la gravitation non pas comme un phénomène dynamique de force, etc., mais comme un pur phénomène géométrique. Au voisinage des corps massifs, la structure de l'espace-temps est modifiée comme si je courbais le tapis et les bosses et les fosses font que les trajectoires sont courbées, les lignes sont courbées et ne sont plus droites. Si elles sont courbées, c'est l'équivalent de l'existence de force, entre autres gravitationnelle. D'accord ? Bon. Et Einstein va plus loin. Il dit, au plus les trajectoires s'incurvent, au plus les forces sont fortes. D'accord ? Si un corps passe et sa trajectoire est violemment incurvée, ça veut dire que la force est forte. Géométriquement, ça veut dire que plus il y a de la masse, plus la courbure de cette structure peut être forte. Et Einstein écrit une équation qui lie directement l'énergie et la matière à la courbure de la géométrie de l'espace et du temps. Quand je dis courbure du temps, vous devez traduire modification de l'écoulement du temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une modification de la trajectoire, hein, les lignes sont courbes, et en même temps, les horloges ralentissent ou s'accélèrent. C'est ça que ça veut dire, une courbure de l'espace-temps. D'accord ? Bon, Einstein écrit une équation en disant, plus il y a de l'énergie-matière, plus la géométrie est courbée. D'accord ? Donc, donnez-moi la quantité de matière qu'il y a dans l'univers, je vous donnerai sa courbure, donc je vous dirai quelle est sa forme. Et donc, on a une sorte de passage assez intéressant entre une mesure physique, la quantité d'énergie et de matière qu'il y a dans l'univers, et la détermination de sa forme géométrique. Autrement dit, l'univers en totalité, comme structure géométrique, peut devenir l'objet d'une étude en soi. L'univers, avec sa forme globale ou locale, peut devenir l'objet d'une étude physique. Puisque de la mesure de l'énergie et de la matière quelque part, je peux vous donner la forme géométrique de l'univers. En fait, la forme spatio-temporelle, ça veut dire non seulement la forme géométrique, mais aussi son histoire temporelle. D'accord ? Bon. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aimer les mathématiques et la relativité, mais vous devez simplement retenir cette idée-là. Einstein dit, donnez-moi la quantité d'énergie-matière, je vous donnerai la forme géométrique de l'espace et les caractéristiques de l'évolution temporelle de l'univers.